Prologue. Pyrénées, fin du printemps 1428. L'ennemi gagnait du terrain. Déterminé à les distancer, Jan van Eyck donna un coup d'éperon dans le flanc de son cheval, qui, semblant comprendre le péril qui les menaçait, s'élança au triple galop en soufflant bruyamment par ses naseaux l'air froid de la montagne. Jan était seul, pourchassé sur une terre à la fois inconnue et hostile. Lorsqu'il avait pour la première fois repéré les morts, juste avant midi, il en avait dénombré 9 à dos de cheval. 2 autres s'étaient joints à la traque depuis. La tâche qu'on l'avait chargé d'accomplir étant vitale pour son bienfaiteur, la capture n'était pas envisageable. Aussi pressa-t-il encore son coursier d'un claquement de rênes. Il connaissait bien sa monture. Un excellent cheval tel que celui-ci, rapide et intelligent, pouvait être d'un grand secours à son cavalier, comme il en avait fait l'expérience à de nombreuses reprises. Lorsqu'il tombait malade, les chevaux étaient soignés avec plus de dévouement que l'on en accordait à la plupart des chrétiens, car c'était grâce à eux que les royaumes prospéraient. Et qu'il s'agisse de destriers, de coursiers ou de palefrois, il répondait aux marques d'affection avec une loyauté sans égale. Jan avait même entendu parler d'un chevalier qui, au retour de la guerre, n'avait pas été reconnu par sa fiancée, mais l'avait immédiatement été par son fidèle étalon. Il regarda droit devant. Tout autour de lui se dressaient des montagnes déchiquetées aux sommets enneigés. À l'ouest, tel un sphinx sur une plaine désertique, un pic élancé se détachait, dont les plus hautes cimes étaient enveloppées de blanc argenté, tandis qu'un autre éperon des Pyrénées se profilait au loin. Jan n'avait pas besoin de s'arrêter et de tendre l'oreille pour savoir que des sabots martelaient la plaine derrière lui. Il avait pourtant espéré rallier le nord du pays et franchir la frontière sans se faire remarquer. Il n'y avait que 2 jours de route entre Tormé, sur le versant espagnol des montagnes, et La Cilias, du côté français. Le village ancestral avait récemment été transformé en forteresse, et il savait que sa présence si près de la frontière inquiétait les morts. Bien que la Navarre et l'Aragon fussent toutes les deux aux mains des chrétiens, les morts parcouraient toujours librement le nord de l'Espagne. La Reconquista repoussait lentement les Arabes vers le sud, reprenant chaque année de nouveaux châteaux et villes. Bientôt, Jan n'en doutait pas, les morts seraient contraints d'embarquer sur des bateaux qui les ramèneraient en Afrique, mettant ainsi fin à 600 ans d'occupation. En attendant, ils continuaient de détruire les églises, saccager les couvents, et attaquer les voyageurs, en particulier ceux qui s'aventuraient un peu trop au sud et osaient traverser les Pyrénées. Son esprit revint au guerrier derrière lui. L'adjectif « mort » signifiait simplement « sombre », en référence à leur peau brune qui, de fait, présentait un contraste saisissant avec les amples tuniques blanches, les turbans colorés et les écharpes qui drapaient leur cou dans un kaléidoscope de fils de soie. C'étaient des hommes brutaux, une véritable menace, et Jan redoutait leurs cimetières en forme de croissant et leurs archers montés. Il s'était attendu à une pluie de flèches, mais les épais bosquets de pins et de sapins à travers lesquels il l'avait jusqu'à présent pourchassé n'offraient pas une vue assez dégagée pour qu'il puisse viser. Il avait les archers en horreur. Un véritable guerrier venait au combat armé d'une hache ou d'une épée. Qu'avait dit le poète déjà ? Maudit soit le premier archer, c'est un lâche qui n'ose pas approcher. Il quitta des yeux la terre devant lui pour se concentrer sur la route à suivre, faisant confiance à son cheval pour s'assurer que le sol était solide sous leurs pieds. Le vent froid qui s'engouffrait dans une crevasse proche ralentissait sa progression. Peu à peu, les sapins autour de lui laissèrent place à d'immenses pins, dont les troncs s'élevaient audacieusement vers les cieux, se tordant parfois comme en proie à la douleur, la plupart dépourvus de branches. Il jura intérieurement. Les archers auraient bientôt une vue assez dégagée pour lancer leur volée de flèches. Le cheval ralentit pour se frayer un chemin à travers les pins, évitant les rochers de granit et laissant une trace bien visible au milieu des délicats edelweiss. Un calme absolu enveloppait la forêt sombre. L'odeur de moisi, des brindilles et des branches lui emplissait les narines. Dans le ciel au-dessus de sa tête, le soleil était chaud, les nuages bas, lourds de pluie. Avec un peu de chance, un orage viendrait bientôt à son secours. Jan arrêta son cheval et risqua un regard derrière lui. Personne en vue. Il tendit l'oreille pour tenter de percevoir un son trahissant la présence des morts, mais tout ce qu'il entendait était les stridulations des sauterelles. Il émergea d'entre les arbres et trouva un chemin menant vers l'est. Dans sa sacoche, un document signé attestait qu'il était le représentant dûment habilité de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Il exerçait officiellement le métier d'artiste, peintre de cour au service de Philippe. Mais dans les faits, il était son espion. Sa mission actuelle l'avait amené en Espagne afin de reconnaître les routes et les territoires locaux. Son attention aux détails, sa maîtrise des couleurs et de la profondeur, le talent et la précision avec lesquels il maniait la plume et le pinceau, étaient autant de qualités qui caractérisaient son art. Le duc aimait à dire que l'acuité visuelle de Yann était sans pareil. Mais contrairement à ses tableaux que le monde réel ne faisait qu'inspirer, les dessins qu'il produisait lors d'une mission secrète devaient être absolument fidèles à la réalité. C'était le cas de ceux qu'il avait tracés au cours de ce voyage, des cartes indiquant le chemin vers des cols de montagne qui revêtiraient une grande importance stratégique pour les armées dans le futur. Yann était un homme large d'épaule, aux membres solides. Il avait laissé pousser ses cheveux bruns qui, épais et touffus, évoquaient des poils de pinceau, tandis que sa barbe longue et irrégulière rendait son teint blafard encore plus pâle que d'ordinaire. En d'autres circonstances, il aurait été rasé de frais, mais il avait volontairement omis de le faire ces dernières semaines, cette pilosité faciale masquant en partie ses traits. Son visage était maigre et large, carré, au dire de certains, son front haut, son nez fin et droit. Outre ses caractéristiques physiques, il pouvait compter dans cette région sur sa maîtrise de l'espagnol et des coutumes locales qui faisaient de lui le parfait espion. Une autre brise le frôla et il savoura un moment de calme. Sa peau était chaude et humide, ses jambes douloureuses. Il portait sous son manteau une lourde cotte de maille et sur la tête un camail d'armure qui s'enfonçait dans son cou et son menton. Il s'était habillé pour la bataille, afin d'être prêt à affronter tous les obstacles qui pourraient se placer en travers de son chemin, et 11 cavaliers morts avaient relevé le défi. Avait-il été trahi par un habitant du dernier village qu'il avait traversé? C'était une communauté chrétienne, mais on l'avait mis en garde. Les morts avaient des yeux et des oreilles partout. Il se baissa et caressa le cheval qui, ravi, aplatit ses oreilles en signe de gratitude. Le gazouillis d'un pinson s'élevait d'un arbre tout proche. Il s'attendait à entendre à tout moment le claquement d'une hache ou le grincement d'une scie contre un tronc, mais il n'y avait apparemment pas âme qui vive. Devant lui s'ouvrait un autre col, au-delà duquel s'étendait l'éclat d'une vallée vert émeraude. Un sentier bien défini s'éloignait en serpentant à travers un épais massif de hêtres. Il fit avancer son cheval et se redressa sur sa haute selle, songeant qu'il avait peut-être semé ses poursuivants. Il lui tardait de pouvoir ôter ses lourds vêtements de métal et profiter du confort de la nuit. Si tout se passait bien, il atteindrait la Cilias avant le coucher du soleil. Devant lui, sur un des arbres, quelque chose attira son attention. Il s'en approcha. Un oiseau était gravé sur le tronc de l'énorme être. Un grand soin avait été apporté au dessin, en particulier dans le plumage et le bec caractéristiques de l'animal, ainsi que les ailes majestueuses serrées contre son corps, prêtes pour l'envol. Un vautour. Les Espagnols l'appelaient « quebrantahuesos », le briseur d'os. Et Yann savait pourquoi. Il avait souvent observé avec une admiration teintée de terreur le grand rapace laisser tomber sa proie sur les rochers, afin de lui briser les os et d'en extraire plus facilement la moelle. Il trouva quelque peu étrange que l'on ait pris le temps de dessiner avec autant de soin un tel prédateur en ce lieu. Des lettres étaient tracées sous l'oiseau. Ce n'était pas une langue qu'il maîtrisait, mais il reconnut les symboles arabes. Autour de lui, les cavités rocheuses gémissaient sous le vent.